matin.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Qui dit favorite du roi ne dit pas favorite de tout le monde, bien au contraire. Agnès Sorel est l'une des plus belles femmes de son temps. Extrêmement gâtée par son amant, elle prend la place de la reine et exerce une influence immense sur le roi. Mais lorsqu'on a autant de pouvoir, il faut s'attendre à avoir beaucoup d'ennemis. Pour bien comprendre, revivons son ascension, avant d'en arriver au poison qui vous intéresse, Mathieu.
Oh oui.
Le roi de France, Charles VII, ne pensait pas que la visite de la duchesse Isabelle de Lorraine en mars 1443 bouleverserait sa vie à tout jamais. Bouche bée, ses yeux globuleux prêts à sortir de leurs orbites, le voilà foudroyé par tant de beauté. Âgé d'une vingtaine d'années, ce n'est pas sa convive, mais bien l'une de ces demoiselles de compagnie qui ressemble à un ange. Son teint d'albâtre contraste avec ses yeux azur et sa chevelure dorée qui encadre un front majestueux resplendit. La silhouette est tout aussi divine. Une poitrine ronde et haut placée, mise en valeur par un décolleté carré, elle s'appelle Agnès Sorel. Charles VII sait déjà qu'il ne pourra plus se passer d'elle. Fou de désir, il la transfère à sa cour l'année suivante et en fait la dame de compagnie de son épouse. La pauvre reine Marie d'Anjou ne peut rivaliser. Elle a 40 ans, l'âge du roi, et elle est laide. Si laide qu'on raconte dans le royaume que la guerre de 100 ans pourrait se terminer rapidement, il suffirait qu'elle regarde les Anglais dans les yeux, ils partiraient en courant. Charles VII lui donne quand même 14 enfants. Il faut dire qu'il n'a pas non plus le look du prince charmant. Il est vilain comme tout, avec son grand nez, ses traits lourds, son expression molle, ses yeux cernés. Ajoutons à cela qu'il est pauvre et ne règne que sur un tout petit bout du royaume depuis Bourges, les Anglais occupant le sud-ouest et la Normandie en pleine guerre de 100 ans. Heureusement qu'il a de la conversation pour charmer sa belle. Née vers 1422 en Picardie, dans une famille de petite noblesse, Agnès Sorel a reçu une éducation exceptionnelle. Placée dès 12 ans à la cour d'Anjou, l'une des plus brillantes cours d'Europe, elle a de l'esprit et manie l'art de la conversation avec perfection. Charles VII ne va donc pas se contenter de la trousser dans un coin comme une vulgaire servante, il veut conquérir son cœur. Pour ce faire, il lui mène une cour assidue dans la tradition de l'amour courtois. Au bout de plusieurs semaines de rendez-vous galants dans les jardins médiévaux de la cité royale de Loches, Agnès Sorel se laisse enfin séduire. Leur relation est révélée au grand jour lors des fêtes royales de Nancy en 1444. Première maîtresse officielle d'un roi de France, Agnès Sorel est couverte de cadeaux par son amant. La cour est sidérée lorsque la favorite reçoit le plus gros diamant qu'on ait jamais vu au prix exorbitant de 30 000 écus. Vient ensuite le manoir de beauté sur Marne, qui lui confère le surnom bien mérité de Dame de Beauté.
C'est magnifique, Beauté sur Marne, ça existe encore ?
Mais c'est drôle, on disait la Dame de Beauté, à la fois parce qu'elle était très belle et parce qu'elle était la seigneur, la femme qui régnait sur Beauté sur Marne. Agnès Sorel s'approprie les fourrures d'hermine réservées à la reine, c'était un privilège royal, et se fait même couronner sur un trône d'or, un enfant sur les genoux. Le peintre Jean Fouquet en fait carrément une madone. Bien avant Marie-Antoinette, Agnès Sorel lance des modes que copient toutes les cours européennes. Elle porte des traînes de plusieurs mètres de long, des bonnets pointus si haut qu'elle passe difficilement les portes, et des sous-vêtements qui compriment le sein, lui donnant un aspect rebondi. Elle s'épile les sourcils pour rendre son front plus large, plus majestueux, utilise des crèmes à l'huile d'olive, à la cire d'abeille et même à la bave d'escargot pour prévenir les rides, déjà à l'époque, aujourd'hui c'est très tendance. Elle blanchit sa peau et ses dents et se rougit les lèvres avec une poudre à base de coquelicot. Le maquillage est pourtant interdit par l'Église, il ne faut pas transformer le corps que Dieu nous a donné. Elle s'en fiche. Elle est la presque reine. À l'instar de Jeanne d'Arc avant elle, Agnès Sorel veut libérer le royaume de l'envahisseur. Elle désespère devant l'inaction de Charles VII et utilise alors un stratagème à la hauteur de son ambition. Un matin, elle dit au roi avoir rencontré son astrologue. Celui-ci lui a prédit son avenir, lui affirmant qu'elle serait auprès d'un grand roi. Mais comme Charles VII ne veut pas se battre, peut-être parlait-il du roi d'Angleterre ? Piqué au vif, le roi fait lever les armées, les victoires s'enchaînent, le territoire est peu à peu libéré, la fin de la guerre de 100 ans est proche. Femme de pouvoir, Agnès Sorel sait placer ses hommes auprès du roi, en particulier son grand ami, certains diront amant, Jacques Cœur. Ce commerçant, qui a amassé une fortune colossale, est devenu l'argentier du roi. Il est si riche, en témoigne son magnifique palais, je ne sais pas si vous le connaissez,
ah,
Mathieu,
non, j'ai pas eu l'occasion
son
de le
palais
visiter.
À Bourges, le plus beau du royaume, qu'il prête de l'argent à tous les grands du royaume. Le roi fait même appel à lui pour financer son armée et reprendre la Normandie aux Anglais. Mais Agnès Sorel n'a pas que des amis. Faut vous en douter, cette favorite qui se prend pour la reine de France en dérange plus d'un. Comme le fils de son amant, le futur Louis XI, très attaché à sa mère, le dauphin ne supporte pas l'influence d'Agnès Sorel, d'un an seulement son aîné. Il voit d'un mauvais œil la légitimation des bâtards de Marie, Charlotte et Jeanne. La colère culmine lorsqu'il est condamné à l'exil après une altercation avec la maîtresse de son père. Agnès Sorel en agace plus d'un. Elle pensait épater la galerie en arrivant à Paris, sauf que la ville est en ruine, infestée par les rats et les épidémies. Alors imaginez l'indécence de ces somptueuses toilettes. Les Parisiens la surnomment la Ribaude, la reine de la puterie. Comme si ça ne suffisait pas, une nouvelle menace se profile. Elle vient de sa propre cousine, Antoinette de Maignelais, qu'elle a fait venir à la cour comme nourrice pour ses enfants. Mais c'est du roi dont veut s'occuper la cousine. Antoinette veut prendre la place de favorite. Une place qu'Agnès Sorel va hélas bientôt libérer. À la fin de l'année 1449, alors que le roi combat les Anglais, Agnès Sorel est au logis royal de Loches. Elle attend un quatrième enfant. Un jour, elle reçoit trois lettres anonymes au message alarmant. Un attentat se prépare contre le roi. Il faut l'avertir immédiatement. En plein hiver, voilà qu'elle part en catastrophe vers la Normandie. Une folie pour une femme enceinte de 7 mois. Après 10 jours de voyage, Agnès Sorel rejoint le roi à Jumièges et s'installe au manoir de la Vigne où sa santé se détériore rapidement. Elle fait une fausse couche et souffre d'une terrible maladie, l'ascaridiose. Des vers pouvant aller jusqu'à 40 cm habitent son système digestif. Tétanisée par la douleur, elle pense que le mal vient d'un sperme fétide, celui du roi, et qu'elle est attaquée par le diable. En février 1450, Agnès Sorel appelle Dieu une dernière fois, avant de s'éteindre, à l'âge seulement de 28 ans. Le roi est sous le choc. La disparition subite de sa bien-aimée ne peut être naturelle. À coup sûr, c'est un empoisonnement. Un coupable est désigné, Jacques Cœur, son ami et exécuteur testamentaire, l'argentier du roi. Mais voilà qu'à son procès, on ne parle plus du meurtre d'Agnès Sorel, mais de crime de lèse-majesté. Pendant plus de 5 siècles, beaucoup se sont demandé si Agnès Sorel avait vraiment été empoisonnée. La réponse est oui. C'est ce qu'a prouvé une étude toxicologique coordonnée par le docteur Philippe Charlier en 2005, après l'ouverture du tombeau de la favorite. Résultat, du mercure a été retrouvé dans ses poils et cheveux. Certes, le mercure est utilisé pour soigner l'ascaridiose, mais la dose retrouvée est 10 000 fois supérieure au traitement habituellement prescrit. Un accident peut-être. S'il s'agit d'un meurtre, mais alors qui a tué Agnès Sorel? Le futur Louis XI? Le dauphin comploteur? Antoinette, la cousine qui veut prendre sa place? Jacques Cœur, bien qu'on ne comprenne pas trop pourquoi? Tout est possible dans cette partie de Cluedo. Aucune preuve n'a permis de lever le mystère. L'histoire retiendra seulement que la belle Agnès Sorel, dame de beauté, est bien morte, empoisonnée.
Europe 1, historiquement vôtre.